deuxième livre des rois, chapitre premier. Nous lirons tout ce chapitre. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit « Allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur « Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël ?» que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras, et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia, et il leur dit, pourquoi revenez-vous ? Ils lui répondirent, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit, c'est Élie, le Tishbite. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit, descends. » Élie répondit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel, et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, « Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. » Élie leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit, en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes, mais maintenant que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie, et Joram régna à sa place la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait point de fils. Le reste des actions d'Akasia et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Akasia était le fils d'Akab et de Jézabel, dont nous avons eu précédemment l'occasion de méditer la lamentable histoire. Et ce fils ne va régner que 2 ans seulement sur Israël. Donc sa mort, vous le voyez, intervient très près de son accession au trône. Il se comporte pendant ces 2 ans tout aussi mal au regard de Dieu, aux yeux de Dieu. Notons toujours cela, la Bible nous montre ce qu'est le comportement vu, jugé par Dieu. Et c'est cela, n'est-ce pas, qui importe, aussi bien pour nous maintenant, ce qui importe, c'est ce que Dieu lui-même pense, ce qu'il voit, ce qu'il relève de notre comportement. Rappelons-nous le Seigneur Jésus parlant à l'apôtre Jean dans l'île de Patmos au sujet des 7 églises d'Asie mineure. Je connais tes œuvres, je connais tes œuvres, je connais ta fidélité. Le Seigneur montre qu'il établit lui-même son jugement sur ce qu'il relève de la conduite de ses serviteurs, aux yeux de Dieu. Eh bien, aux yeux de Dieu, Akasia se conduit tout aussi mal que son père Akab, que sa mère Jézabel. Cela est dit à la fin du chapitre 22 du premier livre des rois. Aussi mal que sa mère Jézabel, et ce n'est pas peu dire, et également que Jéroboam, qui fut le premier roi d'Israël, c'est-à-dire des 10 tribus après le schisme, et qui survint à la mort de Salomon. Et Akasia se prosterne devant Baal. Des Baals, il y en avait un certain nombre, il y en avait divers, mais enfin le Baal qui était à Samarie, il se prosterne devant ce Baal et il irrite l'Éternel. Irriter l'Éternel, c'est une chose infiniment grave. Après l'échec de cette campagne qu'Akab avait entreprise, en demandant à Josaphat, roi de Juda, son concours pour reprendre Ramoth en Galaad, c'est ce que nous avons étudié la dernière fois. Voici que les gens de Moab se révoltent, nous dit le verset premier. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Ce Moab est un peuple qui habitait un plateau situé à l'est de la mer Morte. Il avait au sud de lui les Édomites, et ce peuple refuse de payer le tribut qu'il devait au roi d'Israël depuis que David l'avait soumis. Il refuse de payer, il se sent plus fort relativement par rapport à Israël qui lui vient d'essuyer une défaite, et c'est bien ce que nous dit ce même deuxième livre des rois au chapitre 3 verset 4. Nous aurons l'occasion de revoir cela. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël, ce qui veut dire il contesta son dû et cessa de s'en acquitter. Mais le chapitre premier ne va plus nous parler de Moab, cela reviendra par la suite, et Immédiatement, il relate un événement qui touche la personne du roi Akasia. Celui-ci tombe par le treillis de sa chambre haute à Samarie et en est très malade. Il tombe par le treillis, c'est-à-dire à travers les barreaux, à travers les barreaux de sa chambre. Et la chambre haute était, il faut le penser, suffisamment élevée. Il tombe, bien entendu, et se blesse avec assez de gravité. Et comme peut-être cela met sa vie en question, ces blessures peuvent très bien l'amener à la mort, alors il envoie des messagers consulter Baal Zébub, dieu d'Écron, pour savoir s'il guérira de cet accident. Baal Zébub, cela veut dire littéralement le dieu des mouches. Le dieu des mouches, nous l'avons déjà signalé en étudiant l'évangile de Luc. Le dieu des mouches, pourquoi s'appelait-il ainsi? On n'est pas renseigné d'une façon absolument formelle. On peut dire d'abord que ce Belzébub était le dieu qui produisait les mouches et qui, par conséquent, pouvait aussi en débarrasser ceux que ces insectes gênaient. Il pouvait aussi les chasser. En général, quand un dieu était le dieu d'un certain fléau, il pouvait envoyer ce fléau, faire naître ce fléau, le faire apparaître, mais aussi le faire disparaître. Alors, voilà une explication. Il y en a une autre. On relève dans certains écrits rabbiniques que les rabbins pensaient que les mouches n'approchaient jamais des holocaustes que les Israélites offraient à leur Dieu, ou Dieu vivant, ou Dieu d'Abraham. Les mouches n'approchaient pas des holocaustes, des viandes des holocaustes. Mais que par contre, elles se précipitaient en essaim vers les sacrifices faits aux idoles. Et comme à ce Dieu on offrait beaucoup de sacrifices et que ces sacrifices auraient été environnés d'essaims de mouches, alors on l'aurait appelé le dieu des mouches. Baal veut dire aussi maître, le maître des mouches. Enfin, peu importe, ce Belzébub, Baal Zébub, va devenir Belzébul, nom qui sera donné à Satan par les Juifs, et c'est en se servant de ce nom qu'ils reprocheront à Jésus de faire des miracles par la puissance de Satan. Alors, Belzébul est une altération de Baal Zébub, en changeant le B en un L, il transforme le sens, et le sens devient Dieu du fumier. Dieu du fumier. Alors, voyez, c'était un terme de mépris à l'adresse de Satan. Mépris, d'ailleurs, qui n'est pas spirituel, puisque la Bible nous montre qu'il ne faut pas injurier les gloires, même dans le camp de l'ennemi. Ne pas injurier les gloires. Nous n'avons pas injurié Satan et les anges qui sont tombés, et nous n'avons pas d'ailleurs à entreprendre de dialogue avec eux, n'est-ce pas? Nous n'avons pas à leur parler, mais nous n'avons pas non plus à les mépriser. Ce sont des gloires tombées. Ils sont sous le jugement de Dieu, mais ils ne seraient pas du tout spirituels leur adresser des paroles de mépris. Et voici que le Tishbite, Élie, est envoyé à la rencontre des messagers du roi. Et la question que qu'il va poser à ses messagers, faire poser au roi par leur intermédiaire, et celle-ci, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal, Zébub, Dieu des crans? Voilà, en somme, une chose qui irrite Dieu, qui est une offense grave à Dieu, au milieu de son peuple, et c'est toujours son peuple, malgré la conduite infâme qui maintenant est en somme de règle courante au milieu du peuple des 10 tribus, malgré cela, Dieu est irrité, est offensé de ce que on l'abandonne pour aller consulter une idole. Et, chers amis, voilà une leçon, j'ai toujours, je vous dis de temps à autre, pour que vous ne l'oubliez point, que nous avons bien sûr à tirer des leçons de l'Ancien Testament. Toutes ces histoires se présentent à nous comme des paraboles vécues, mais cependant, nous en tirons un parti analogue à celui que l'on tire de paraboles, de véritables paraboles, qui sont des similitudes, c'est-à-dire des petites historiettes imaginées afin de constituer le support d'une idée, le support d'une vérité. Eh bien là, le support de la vérité, c'est cette histoire vécue, authentique, mais elle est pour nous riche d'enseignements. Il y a des choses que souvent nous pouvons prendre telles qu'elles sont, par exemple c'est le cas ici, Dieu ne veut pas qu'on aille consulter, je ne dis pas une idole, mais qu'on aille consulter en dehors de lui. Dieu veut d'abord qu'on aille vers lui. Un enfant de Dieu, un chrétien, doit d'abord aller vers son Dieu, quoi qu'il lui arrive. Quoi qu'il lui arrive, c'est d'abord vers lui. Si par exemple vous êtes malade et que vous sautiez d'abord sur le téléphone pour appeler le médecin, eh bien, ne croyez-vous pas que vous offensez Dieu? Je ne dis pas que vous n'aurez pas peut-être à avoir recours au médecin, hein, il n'y a aucune défense à cet égard-là, mais il y a tout de même une conduite qui peut être plus ou moins spirituelle, et elle sera vraiment spirituelle, elle manifestera un attachement à l'égard de Dieu, du Père de notre Seigneur Jésus-Christ, si, au nom du Sauveur, immédiatement, au nom de votre Seigneur, vous allez tout de suite vers votre Père Céleste. Et c'est ainsi d'ailleurs que la confiance de votre cœur pourra se fortifier. Ce que nous devons faire, nous chrétiens, c'est d'apprendre à vivre dans la confiance. Ça s'apprend, la confiance. Ce n'est pas une chose naturelle. C'est une chose surnaturelle. Il faut que, en somme, notre cœur cesse de rester simplement dans la pensée des choses connues, des choses naturelles, pour tout de suite, par l'esprit et par la puissance de la foi qui doit se manifester en nous et agir, aller vers le Dieu vivant. Il faut bien entendu que toute notre vie nous permette, au moment où nous avons un besoin tout à fait particulier d'un secours, nous permette d'aller le chercher auprès de Dieu. Alors, la confiance est une chose qui s'apprend, la confiance en Dieu, ça ne peut pas s'inventer, et ça ne peut pas se découvrir simplement au moment où survient un événement particulièrement grave qui nous effraie, qui suscite en nous de l'inquiétude. Non, ce n'est pas à ce moment-là. Il faut que, pour les plus petites choses, nous apprenions à tout de suite élever notre regard vers la montagne d'où nous vient le secours, la montagne de Dieu. Alors, il y avait là une offense, vous voyez que la confiance de ce roi, dont le cœur est aussi sclérosé et endurci que l'était le cœur de son père ou de sa mère, n'en parlons pas, C'était une princesse tyrienne. Elle n'avait jamais, elle, exercé la moindre foi. Mais son père était, lui, tout de même, un enfant d'Israël. Alors, sa confiance ne va pas vers le Dieu d'Israël, mais va immédiatement vers une idole, et une idole étrangère. Élie va donner ce verdict au messager du roi pour qu'il le lui apporte. « Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, tu mourras. » Élie s'en alla. On peut dire, mais est-ce là immédiatement le châtiment? Est-ce là le châtiment que Dieu fait peser sur ce roi qui n'a pas pensé à lui donner d'abord à lui sa confiance et qui est allé vers une idole, vers le Dieu qui se nomme lui-même un Dieu jaloux, un Dieu exclusif, un Dieu qui nous veut tout à lui? Alors, est-ce que c'est là le châtiment? Eh bien, non. Mais nous pouvons dire que c'est ici ce qui fait déborder la coupe. La conduite de ce roi, je viens de le dire, est très mauvaise. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans la voie de son père, et dans la voie de sa mère, et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal et se prosterna devant lui. Il irrita l'Éternel. C'est le comble est atteint, tout simplement. Vous savez que Dieu agit en jugement quand le comble est atteint. Nous avons plusieurs exemples de cela. Tous les peuples cananéens, par exemple, ne seront dévoués par interdit, cela au moment de la conquête par Josué, mais ils ne le seront qu'au temps où ces peuples auront mis le comble à leur corruption et à leur mauvais cœur. Eh bien, ici, c'est le comble qui fait que le roi prononce cet arrêt de mort. Alors, voici que les messagers retournent vers le roi qui en est étonné de les voir arriver si vite, et il apprend d'eux la parole d'Élie, mais il demande comment cet homme rencontré était vêtu. On lui dit c'était un homme vêtu de poils, c'est-à-dire d'un vêtement de poils, un vêtement fait par conséquent de peau d'animaux et probablement chèvre, et ayant une ceinture de cuir autour des reins, comme sera vêtu, vous le savez, Jean-Baptiste. Et Acasia le reconnaît tout de suite à cette description, c'est Élie le Tishbite. Alors, nous avons lu ce récit qui, à plus d'un titre, peut nous étonner, nous émouvoir, peut même peut-être remuer un peu notre sensibilité d'homme de ce temps, d'homme du XXe siècle. C'est pas que ce soit là un titre à faire valoir pour se croire meilleur sur le plan moral. Il y a, nous l'avons vu, une fausse charité, un faux amour, à notre époque surtout, comme il y en a eu aux époques les plus sombres de l'histoire d'Israël, une fausse charité, un faux amour. Mais enfin, il y a cette sensibilité. Mettre à mort brusquement un détachement de 50 hommes avec leur chef, et cela à deux reprises, en faisant tomber le feu du ciel sur eux, c'est quelque chose, évidemment, qui peut émouvoir, qui peut nous émouvoir. Et si cela tombe dans les oreilles de quelqu'un qui soit loin d'être dégagé de l'incrédulité naturelle au cœur humain, et qui soit prompt à découvrir dans la Bible des prétextes de contestation, il ne manquera pas de dire, voyez, quelle cruauté, quelle cruauté. Mais nous avons à comprendre,
Nous savons que notre Dieu n'est pas un Dieu cruel, il n'est pas... si vous vouliez, par exemple, que l'on puisse, que l'on jauge la cruauté, toute la cruauté qui a pu s'exercer au cours de l'histoire de l'humanité, ben, dans la Bible, nous aurions plus d'une occasion de la mettre en lumière, cette cruauté, une véritable cruauté. Mais de la part de l'Éternel, ce n'est pas une cruauté. N'oublions pas qu'il est celui qui fait vivre et qui fait mourir, et n'oublions pas qu'à certains moments, il ne peut pas aller au-delà d'un certain terme, et que l'offense qui lui est faite peut très bien provoquer un jugement immédiat. Je rappelle souvent ce qui s'est passé au début de l'Église avec Ananias et Saphira, hein, l'Église de Jérusalem. L'apôtre Pierre va faire mourir ces deux personnes, et il va les faire mourir parce que l'Esprit le conduit à faire cela, et l'Esprit lui donne autorité pour cela. Il va faire mourir ces deux personnes. Il y a là quelque chose sur quoi Dieu ne peut pas passer. Nous avons déjà signalé cela. Même à notre époque moderne, des événements, des faits qui ont en eux une telle puissance d'irritation à l'égard de Dieu, que Dieu ne les tolérera pas et n'ira pas plus loin. Il ne pourra pas accorder sa miséricorde. S'il n'accorde pas sa miséricorde, Dieu juge immédiatement. Et quand il juge, il est vu comme un feu dévorant. C'est une chose terrible, dit l'Épître aux Hébreux, que de tomber entre les mains du Dieu vivant, si on le connaît comme juge. Ainsi, là, cela peut paraître, évidemment, extrêmement rigoureux. Faire mourir ces gens par le feu du ciel, c'était une chose qui, cependant, n'était pas vu de la même manière par les Israélites que par nous maintenant. Vous savez que lorsque Jésus et ses disciples passeront par la Samarie et ne pourront point y faire étape parce que personne ne voudra les recevoir, étant donné qu'ils sont juifs, étant donné l'animosité entre les Samaritains et les Juifs, alors Jean et Jacques, fils de Zébédée, proposeront à Jésus de faire descendre de feu du ciel et de les consumer. Certainement, ils ont en mémoire ce qu'a fait Élie ici. Mais Jésus, bien sûr, ne cédera pas à une pareille demande. Il sera même indigné. Et il dira à ses deux disciples, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé ? Vous ne savez de quel. Je ne suis pas venu pour perdre, mais pour sauver. » Alors vous voyez, en cela, par ce rapprochement, les différences considérables qu'il faut savoir reconnaître entre les faits de l'Ancien Testament, régime de la loi, et ceux de du Nouveau Testament, c'est-à-dire de la Nouvelle Alliance fondée sur le sang de Jésus, n'est-ce pas, une différence énorme. Lorsque Jésus vient sur la terre, eh bien, la dispensation, immédiatement, celle de la grâce, apparaît, c'est elle qui s'ouvre, et là, les actions de Dieu seront tout à fait différentes. Dieu va manifester sa miséricorde. Ce sera le grand principe de l'Évangile et de cette longue période. Nous savons qu'elle est longue, elle a déjà duré 19 siècles, cette période d'ensemencement, de semaille de la terre. La terre est ensemencée par la parole de Dieu. Dieu est dans sa patience pour toutes les nations de la terre. Et Jésus est venu, il dispose de la rédemption, il invite les hommes à la foi, des plus si vous voulez, les cœurs les mieux préparés, pourrait-on dire, autant que les plus irréductibles, tous sont invités, il fait pleuvoir. Pour les méchants comme pour les bons, il fait lever son soleil, pour les méchants comme pour les bons, tous seront placés dans les mêmes conditions pendant ce temps de la grâce. Mais nous aurions tort, nous, tout en sachant ces choses, tout en nous en réjouissant, tout en les proclamant dans notre message, dans notre témoignage, tout en les proclamant à la terre, nous aurions tort de ne voir, et ça ce serait, c'est un tort qui a engendré des hérésies et bien des erreurs, nous aurions tort de voir notre Dieu, le Dieu vivant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, seulement sous cet aspect. Et c'est l'épître aux Hébreux notamment, et qui nous rappelle que, attention, si nous ne sommes pas précisément couverts par le sang rédempteur de Jésus, ou si nous ne sommes pas engagés vers la grâce de Dieu, eh bien nous allons découvrir, si nous avons par exemple épuisé la grâce de Dieu, si nous l'avons méprisée, si nous avons crucifié pour notre part le Fils de Dieu, alors nous allons trouver le Dieu comme un juste juge, comme un juge terrible. Et il est certain que Dieu est absolument inflexible en tant que juge. Et alors, nous pourrions avoir, oh, il faut bien sûr se donner souvent des idées simples. Il ne faut pas avoir recours aux grands discours et aux grandes idées, aux idées souvent confuses et complexes de la théologie savante. Mais disons que nous pouvons nous représenter un peu, très simplement, le Dieu qui est notre Créateur et notre Sauveur en Jésus-Christ. Nous pouvons nous le représenter, si vous voulez, comme un livre. D'un côté, et c'est cette face de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ nous donne de contempler, c'est vers cette face qu'il veut que nous portions nos regards, par lui seulement. Il se met là, n'est-ce pas, pour nous montrer, nous découvrir, lui qui révèle le Père. Il veut nous révéler le Dieu amour. Dieu est amour. Dieu est amour. J'aurais mieux fait de commencer par là, parce que c'est justement écrit sur ma couverture. Dieu est amour. Dieu est amour, n'est-ce pas? Et le Seigneur Jésus-Christ va nous découvrir, lui qui révèle le Père. Il va nous découvrir Dieu amour. Mais attention, le livre a deux couvertures où il a un endroit, si vous voulez, et un envers. Il n'y a jamais d'endroit sans envers. Et de l'autre côté, Dieu est le juge inflexible, le juge dont la justice ne peut pas plier, ne peut pas fléchir. Ne comptons pas faire fléchir, tant soit peu la justice de Dieu. Dieu ne change pas. Alors là, ici, c'est le Dieu juste, mais le juge, celui qui fait respecter sa justice, et elle ne peut pas plier, elle est inflexible, je le répète. Alors, son amour, puisque c'est le même Dieu, n'est-ce pas, si on peut le voir sous ces deux faces, sous ces deux aspects, c'est cependant le même Dieu, eh bien, le Dieu amour va, par la personne de Jésus-Christ, nous amener à la parfaite justice, à la parfaite connaissance de sa justice, de sa sainteté, et c'est ainsi qu'il va nous sauver. L'héritage promis aux saints est situé dans la lumière et non dans les ténèbres. Soyez saints parce que je suis saint. Or, vous savez que c'est quelque chose de terrifiant Je ne peux pas vous en parler longuement maintenant. C'est quelque chose de terrifiant que la sainteté de Dieu. Ceux qui en ont eu la vision, comme Ésaïe par exemple, ont tremblé. Ils se voyaient morts. La sainteté de Dieu est quelque chose, on peut dire, d'insupportable pour nous maintenant. C'est à travers Jésus-Christ qu'il faut la découvrir. C'est absolu. C'est quelque chose d'insupportable pour nous. Et c'est à cette sainteté parfaite que la grâce de Dieu entend nous conduire, nous amener pour nous sauver. N'oublions jamais ça. Nous qui avons été justifiés, nous sommes sanctifiés pour être amenés à la même image que notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous revenons à notre récit. Voilà donc ces deux équipes, ces deux détachements de soldats qui vont l'un et l'autre être frappés du feu du ciel. Bien sûr, que venaient-ils faire? Ils venaient tout simplement arrêter Élie. Il l'interpelle, descend. Le roi a dit descend. Alors, les soldats allaient bien sûr se saisir de lui et l'amener manu militari vers le roi, qui l'aurait fait emprisonner, qui en aurait fait ce qu'il aurait voulu. Dieu le sait, bien sûr, et Dieu ne veut pas qu'Azaria puisse faire cela. Au contraire, cette arrestation de Élie, et qui est dans l'esprit de ce triste roi, de ce roi rebelle, cette arrestation est dirigée, en somme, contre Dieu lui-même. On pourrait dire, mais l'acte criminel d'Hérode sur Jean-Baptiste n'était-il pas aussi une offense à l'adresse de Dieu? Bien sûr! Et je fais un rapprochement, vous voyez, entre Élie et Jean-Baptiste, vous savez, à propos de la parole du Seigneur Jésus, lorsque les apôtres ont demandé si Élie devait venir, et demandé en somme confirmation de cela, alors Jésus a confirmé, il est vrai qu'Élie doit venir, mais il est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, et il leur parlait de Jean-Baptiste, ils en ont fait ce qu'ils ont voulu, de Jean-Baptiste, ainsi de même feront-ils du Fils de l'homme. La mort de Jean-Baptiste allait précisément proclamer, annoncer la mort du juste et du véritable, la mort du Sauveur, du Messie. De même que le baptême de Jésus-Christ par la main de Jean-Baptiste était aussi une annonce du baptême de la mort. Du baptême de la mort par lequel Jésus-Christ allait passer. Donc il fallait que ces choses fussent à leur époque, à ce moment-là. Mais à l'époque d'Élie, nous en sommes à un moment, à un temps où il faut seulement proclamer ce qui va venir. Il faut proclamer ce qu'est le Dieu d'Israël, et comment le Dieu d'Israël va continuer d'implanter ses desseins pour arriver au salut de la terre. Alors là, Dieu va immédiatement sanctionner cette offense, cette terrible prétention d'un roi d'arrêter le prophète de Dieu et en somme de porter la main sur Dieu. Il porte la main sur Dieu. Comme Amalek avait levé sa main vers le trône de Dieu. C'est exactement de même gravité. Il avait levé sa main sur le trône de Dieu. Parce qu'Amalek a levé la main contre le trône de Dieu, il y aura guerre à toujours entre Amalek et Dieu. Ah, il y a, n'est-ce pas, des rigueurs de l'Éternel. Nous avons besoin, nous, hommes et femmes du temps de la grâce et de l'Église, nous avons cependant, je le répète, besoin de cela. Nous avons besoin de plus de sérieux. Nous avons besoin de prendre conscience du sérieux et de la gravité même des choses, si nous sommes à l'aise, si nous sommes en sécurité dans le creux du rocher où Dieu nous a mis, c'est-à-dire en Christ, si nous sommes en Christ vraiment, nous sommes à l'aise, nous sommes à l'abri, nous avons la paix, la joie. Cependant, il faut que nous ayons conscience de la sainteté de notre Dieu et de ce qu'il est toujours. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, le Dieu jaloux et le Dieu qui veut que nous soyons nous-mêmes sérieux, appliqués à user de sa parole, à nous laisser conduire par son esprit. Alors, voici que ces hommes, donc intimes à Élie, l'ordre de se livrer. En somme, descend, il faut qu'il se livre. Et Élie répond au chef de 50, il va la première fois comme la seconde, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu de Dieu descende du ciel et te consume. » Alors, évidemment, dans la traduction, on ne voit pas très bien quel est un peu le côté, si vous voulez, caractéristique de cette réplique. Vous savez qu'en hébreu, on usait beaucoup des consonances, je ne dirais pas des jeux de mots, mais des rapprochements de mots qui, dans une phrase, apportaient une consonance entre deux termes très semblables quant à leur prononciation ou leur orthographe même. Alors, il y avait là quelque chose qui frappait. Et ici, c'est le cas. Si je suis un homme, en hébreu, « ish » de Dieu, que le feu de Dieu descende, le feu de Dieu c'est Esh, Ish et Esh. Alors, si je suis Ish de Dieu, que Esh descende, ce n'est pas Ish qui va descendre, c'est Esh. Vous voyez, la force de la réplique du prophète Élie, n'est-ce pas? Ah, ton maître voudrait Ish, l'homme, eh bien c'est Esh qu'il va avoir le feu. Tu voudrais te saisir de l'homme, tu voudrais te saisir de la vie, eh bien, c'est le feu que tu vas avoir, qui va descendre vers toi, sur toi. Voyez-vous, n'est-ce pas, comme il y a là une force, et on sent que cette parole est une parole dénotant toute la puissance de l'esprit qui est dans le prophète. Et alors, à la troisième troupe qui vient vers lui, les choses se présentent différemment parce que ce nouveau chef, ce troisième chef de 50, va parler tout autrement. Et il va fléchir les genoux devant le prophète et le supplier, « Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. » En somme, c'est ce chef de cette troupe vient humblement et il vient avec dans son cœur non pas seulement la peur de mourir, mais il vient aussi avec la crainte de Dieu, car il se prosterne, il fléchit les genoux devant Élie qu'il reconnaît comme un prophète de Dieu, un messager de Dieu, homme de Dieu, que ma vie, et il demande que son salut et le salut de ses hommes, il demande le salut, il le demande avec dans le cœur la crainte de Dieu. Alors là, même si cela n'a ici qu'une valeur prophétique, il faut qu'elle intervienne, il faut qu'elle soit là, il faut là que grâce soit faite à cet homme qui vient avec la crainte et demande. Et demande le salut. Il veut son salut. Il demande le salut. Alors là, le Dieu terrible, eh bien, c'est l'autre côté qui se présente. C'est le Dieu miséricordieux. Et Dieu miséricordieux, alors là, qui se présente. Vous voyez, selon l'attitude de l'homme, du cœur de l'homme, eh bien, on va rencontrer ou le Dieu miséricordieux ou le Dieu juge terrible. Alors là, l'ange de l'Éternel l'ange de l'Éternel, nous avons eu l'occasion d'étudier particulièrement cela, le sens de cette expression, l'année dernière, quand nous avons ensemble médité tout le livre, les 14 chapitres du livre du prophète Zacharie, et je vous ai montré, enfin ce qui était là, je vous ai montré que l'ange de l'Éternel se trouvait lui-même dans certains passages du prophète Zacharie en conversation avec une autre personne divine, et cette personne divine était, elle, l'Éternel. Donc l'ange de l'Éternel n'est pas tout à fait l'Éternel, cependant il parle comme l'Éternel. Mais il n'empêche qu'il y a l'ange de l'Éternel et qu'il y a l'Éternel. C'est très caractéristique dans le livre de Zacharie. Je redis toujours, chers amis, permettez-moi de le dire à nouveau, et je suis encouragé par l'apôtre Pierre qui répétait souvent les mêmes choses. Alors, j'ai un grand exemple à suivre là. Hein. Eh bien, disons ceci, c'est que, actuellement, nous manquons dans l'Église d'une soif concernant la Bible, la parole de Dieu. Ah, volontiers, nous disons, la Bible, oh, c'est toute la parole de Dieu. Si quelqu'un vient nous dire, oh, vous savez, la Bible, oui, comment la Bible? Mais la Bible est toute inspirée, depuis le premier mot jusqu'au dernier, elle est inspirée de l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. Nous avons raison. Mais là où peut-être nous avons un peu moins raison, c'est qu'il y a des parties entières que nous ignorons, que nous n'avons pas exploré, que nous n'avons pas médité, et nous avons laissé quantité de richesses dans l'ombre. Dieu nous a donné ces richesses, et il y a dans ces richesses des enseignements qui nous font défaut. Et il faut les découvrir à longueur de pas, je dirais plutôt à longueur de méditation. Eh bien donc, l'ange de l'Éternel, je dis cela, j'insiste un peu, parce que il faut dire, comme Jean, il y a un tas de gens qui vous troublent et qui vous égarent. Et maintenant, ce ne sont pas seulement des gens avec leur verbe, mais ce sont des gens avec leurs plumes qui nous égarent dans toutes sortes d'écrits. Et alors, on a dit des choses invraisemblables sur l'ange de l'Éternel. Quand on laisse aller un petit peu son imagination, on ne sait plus où ça va. Et il faut rester tout à fait attaché à la Bible, à toute la Bible, bien sûr. Pas à un passage ou à deux, mais à tout. Et c'est de l'ensemble dont nous prenons une pleine connaissance que nous pouvons retirer des certitudes et surtout des enseignements. Eh bien, on nous trouble donc sur l'ange de l'Éternel, mais il est pourtant exact, vrai, malgré les dénégations de certains que vous avez pu peut-être connaître, et ces dénégations, nous les repoussons, il est vrai que l'ange de l'Éternel était bien une manifestation avant le temps de celui que nous connaissons maintenant comme Jésus le Christ. Il n'y a que lui qui pouvait parler comme, par exemple, dans le psaume 45, « ton Dieu, ta main », n'est-ce pas? Là, c'est clair, c'est bien le Père qui s'exprime à l'adresse du Fils, mais dans Zacharie, par exemple, c'est l'exemple que nous avons eu l'année dernière, eh bien, dans la même circonstance, et on peut dire sur le même terrain, il y avait là deux personnes, l'ange de l'Éternel qui parle à l'Éternel, et l'Éternel lui parle. L'Éternel dit à l'ange de l'Éternel, va faire ceci. Alors, quand on suit bien les choses, on s'aperçoit que l'ange de l'Éternel ne peut pas simplement être un ange, mais qu'il est bien vraiment une théophanie, nous dirions, une manifestation divine. Alors, je vous dis cela simplement ici à cause de l'expression que nous rencontrons. Alors, voici par conséquent Élie qui descend vers Acasia et qui lui rapporte les paroles de l'Éternel et lui annonce sa mort. Ça ne tarde pas, Acasia meurt selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. et un certain Joram, qui n'est pas son fils, et qui n'est pas non plus le fils de Josaphat, qui n'est pas à confondre avec le fils de Josaphat, un certain Joram va régner à sa place. Cela, nous le verrons ultérieurement. Eh bien, nous allons pouvoir nous arrêter, non sans toutefois faire une remarque. Et cette remarque, la voici, nous réfléchissons simplement à ces circonstances qui nous sont révélées dans la Bible et au moment précisément où nous nous trouvons là, par le début du deuxième livre des Rois, nous voyons la carrière d'Élie parvenir à son terme. Dans la prochaine étude, nous allons le voir partir vers le ciel, chose extraordinaire, magnifique, qui a toutes sortes de significations, une puissance de proclamation prophétique étonnante. Nous verrons tout cela, mais nous pouvons dire d'une manière générale que l'action d'Élie, avec cette puissance qu'il lui est donné de déployer, l'action du prophète Élie montre ce qu'aurait été celle de Jésus-Christ si Jésus n'était pas venu sur la terre pour expier. Si Jésus n'avait pas eu à dire « Je suis venu non pour juger, mais pour sauver ». Et si le Fils de Dieu était venu sur la terre, il aurait lui aussi usé du feu du ciel. Donnons-nous cette appréciation des choses, cette conclusion. L'action du prophète Élie a une valeur prophétique, bien sûr. On pourrait l'étudier davantage, nous le ferons un peu sous l'angle prophétique, mais disons bien que cette action d'Élie montre ce qu'aurait été celle de Jésus si Jésus n'était pas venu pour expier le péché en mourant. Alors Élie, c'est le feu du jugement, il apporte le feu du jugement, il sera un précurseur de la période du jugement, la période du jugement, 1260 jours, se déroulera, et ensuite ce sera la venue sur la terre du Seigneur Jésus. Mais lui, après ce feu, il va monter au ciel. Pendant le cours de son ministère, il y avait, nous l'avons vu, d'autres prophètes, notamment le prophète Michée. Mais Élie est l'homme auquel Dieu a confié une mission tout à fait particulière. Je le dis quelquefois, il n'y a qu'un Abraham, avec toutes les actions qui lui sont dues. Il n'y a qu'un Moïse, il n'y a qu'un roi David, et il n'y a aussi qu'un Élie. Après lui, nous verrons Élisée. Le ministère d'Élisée a un caractère différent. Eh bien, nous arrêtons ce soir là-dessus.